Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que j'ai intitulée aujourd'hui « Petite histoire de l'uranium en Basse Marche et ses marges ». Ce sera notre 303e émission et notre 192e chronique. Concernant les textes et les auteurs, j'ai eu beaucoup de chance de découvrir l'enquête très riche, très fouillée, très argumentée, très illustrée d'un journaliste du populaire, Sylvain Compère. Avec son accord, je vais largement piller son étude. J'ai également fait appel à l'ouvrage du géographe René Lacote, l'uranium en Limousin. J'en profite pour rendre hommage à René Lacote, qui fut mon professeur à l'université. Et à la troisième monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, mise à jour par Colette Marceau, et à l'ouvrage « La basse marche de tous les temps ».
Petites et grandes histoires de la basse marche.
L'exploitation par le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, des ressources en uranium enfermées dans les massifs de granit limousin va, dès sa découverte, en 1948, bouleverser la vie de nombreux habitants de la région. La filière emploie jusqu'à plus de 2000 personnes. Jusqu'en 2001, le minerai limousin enrichit l'économie locale et alimente le complexe nucléaire français incarné par la COGEMA. Plus de 30 000 tonnes d'uranium sortent du sous-sol des trois départements. L'épuisement des filons, la crise du nucléaire et l'éveil de la conscience environnementale ont raison des mines limousines. Il ne reste plus aujourd'hui qu'un peu plus de 140 personnes employées dans la région par Areva, ex-Cogema. L'enjeu local est désormais la gestion des vestiges industriels et radioactifs, héritage d'un demi-siècle d'exploitation de l'uranium en Limousin. La découverte du filon. En 1948, la nouvelle tombe et va bientôt faire le tour du monde. Un gisement d'uranium a été découvert à Saint-Sylvestre, en Haute-Vienne. À Paris, c'est l'euphorie dans les bureaux du Commissariat à l'énergie atomique, qui cherche depuis 3 ans de quoi alimenter la filière nucléaire française naissante. L'échantillon ramassé au milieu des bois, à 15 minutes au nord de Limoges, est l'une des premières pierres de l'aventure de plus d'un demi-siècle entre l'épopée nucléaire française et le Limousin. Les roches uranifères sont connues de longue date, même si l'homme ignore la plupart de ses propriétés. Leur présence est connue en Limousin depuis 1804, quand le citoyen et ingénieur des mines M. Cressa découvrit un échantillon d'urane oxydé qu'il envoya à Paris. Mais la découverte tomba dans l'oubli. L'intérêt pour les matières radioactives n'apparaît vraiment qu'à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle, d'abord pour des raisons médicales, puis militaires, et enfin seulement pour produire de l'énergie. L'explosion des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945 ouvre cette nouvelle ère de paradoxe, l'ère nucléaire. L'atome représente à la fois la panacée universelle, on en mettait même dans les vêtements pour enfants dans les années 1950, qui permet d'envisager le progrès pour tous, mais sa puissance inspire aussi la peur et la crainte. Des prospecteurs sont alors envoyés dans toute la France et dans ses colonies en quête de filons uranifères. Dès la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe en 1945, les vainqueurs veulent contrôler l'énergie nucléaire. Frédéric Joliot-Curie, prix Nobel de chimie et alors président du Centre national de recherche scientifique, le CNRS, cofonde le Commissariat à l'énergie atomique. Le 2 décembre 1945 est créée, au sein du Muséum d'histoire naturelle, l'école de prospection du CEA. Et ce jour-là, Frédéric Joliot-Curie, inaugurant le premier stage de prospecteur, déclare « Si je le pouvais, je lancerais sur la France 2000 prospecteurs. Ils balayeraient systématiquement notre sol au compteur Gégère, du Pas-de-Calais aux Pyrénées. Pas un indice d'uranium ne m'échapperait. » Des prospecteurs sont alors envoyés dans toute la France et dans ses colonies en quête de filons uranifères. Et c'est donc en Limousin qu'est découvert l'un des filons les plus riches de France et qui sera la première mine d'uranium du pays au cœur des monts d'Ambazac. La première pile atomique française mise en service en décembre 1948 était baptisée Zoé. La première mine tricolore s'appellera Henriette, le prénom de l'épouse d'un cadre du CEA, pionnier de la division minière de la Crousille, créée dès 1949. La mine Henriette produira plus de 150 tonnes d'uranium métal jusqu'à sa fermeture en juillet 1957. Cet uranium limousin va alimenter les premières piles atomiques françaises après Zoé et renforcer l'ambitieux projet hexagonal d'indépendance énergétique. Dès 1951, une vaste campagne de prospection va permettre de localiser les principaux gisements de la région, les Sagnes, Margnac, Fanet ou encore le Brugeot. Quant aux besoins en minerais, ils explosent avec le lancement du programme nucléaire français et la mise en service du premier réacteur nucléaire français au graphite à Marcoule, le 7 janvier 1956. À ce moment-là, le CEA en Limousin a déjà vu passer ses effectifs de 180 personnes en 1950 à presque 500 en 1956.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
De 1950 à 1975, nous dit Sylvain Compère, c'est l'âge d'or. C'est le temps du yellow cake. 1956, la première centrale nucléaire de Marcoule dans la Drôme tourne à plein et annonce la montée en puissance de la filière nucléaire française. Pour assurer celle-ci, l'uranium limousin est indispensable et son extraction doit s'accélérer, d'autant que l'estimation des réserves régionales augmente à chaque nouvelle découverte et dépasse rapidement les 10 000 tonnes. La division minière de la Crousille est installée à Razé depuis 1955, où la rejoint l'école de prospection quelques mois plus tard et voit ses activités croître d'année en année. Le périmètre minier s'étale maintenant sur 4 communes, Comprignac, Bessines-sur-Gartempe, Saint-Sylvestre et Razé. Et représente près de 200 km² de territoire concédé. Les massifs uranifères sont percés de dizaines de kilomètres de galeries. À ces mines souterraines, comme le gisement Henriette, s'ajoutent désormais les mines à ciel ouvert, comme au Brugeot, plus simples à exploiter. Un effectif de 800 personnes en 1958. L'usine de traitement, la CIMO, est mise en production en 1958 à Bessines pour transformer sur place le minerai en yellow cake, cette pâte jaune d'uranium destinée à être raffinée pour fabriquer du combustible nucléaire. Le site traite le minerai limousin, mais aussi celui provenant des mines du Forez et de mines privées du Massif central. Les effectifs de la division minière passent alors de 500 personnes vers 1956, à plus de 800 en 1958, pour finir par se stabiliser autour de 700 jusqu'aux années 1970. De Gaulle à Bessines. C'est un autre chapitre de Sylvain Compère. L'affaire est d'importance, à tel point que le président de la République, Charles de Gaulle, se rend à Bessines. En pleine guerre froide, le sujet de l'atome est extrêmement sensible et tout ce qui s'y rapporte suscite un climat de paranoïa depuis le simple citoyen jusqu'au plus haut niveau de l'État. Secret défense. Une lourde chape de plomb s'abat du coup sur les sites uranifères du Limousin. Périmètre de protection, gendarmes bloquant les accès, murs d'enceinte, cartes modifiées, transport de minerais soumis au secret et quantités extraites frappées d'embargo. Ces consignes vont devenir une culture chez les salariés de la mine et leurs familles. Le 9 mai 1962, alors que la France mène de front ses programmes nucléaires civils et militaires, le général de Gaulle se rend à Bessines, accompagné du haut commissaire à l'énergie atomique, visite la mine et les installations de la capitale de l'uranium français. La plupart des Limousins, souvent raillés à Paris pour leur ruralité, sont fiers de participer ainsi à une aventure scientifique tournée vers le progrès. De plus, la ressource semble inépuisable et on parle de plus de 1000 ans d'autonomie énergétique pour le pays. Des projections qui ne prennent sûrement pas en compte l'explosion de la consommation électrique des décennies qui vont suivre. On encourage les compagnies privées à prospecter et en 1964, c'est la compagnie minière et métallurgique d'Indochine qui découvre le filon du Bernardin à Jouac, juste au nord de la concession du CEA. Ce filon s'avérera être l'un des plus riches de France en uranium. Voici maintenant la période de 1975 à 1990 que Sylvain Compère appelle « santé et écologie ». À partir des années 1970, les questions de santé et d'environnement deviennent centrales dans la gestion des activités minières par la COGEMA, notamment dans son rapport aux populations locales et à leurs représentants. Déjà, la pollution sonore avait poussé les habitants de Fanet, sur la commune de Saint-Sylvestre, à signer une pétition que le maire et le conseiller général portent à la direction du CEA en juillet 1963. Mais l'affaire ne fait pas plus de bruit que cela, et une solution est trouvée sans que le préfet ne soit invité à prendre part au débat. Jusqu'au début des années 1970, les conflits avec la population se limitaient le plus souvent à des litiges fonciers. Et des arrangements se trouvaient en tête à tête, même si le rapport était totalement inégal. Puis émerge peu à peu un mouvement antinucléaire et une conscience écologique locale qui cristallise les oppositions et pose de nouveaux problèmes à l'exploitant. Dans certains points, comme au-dessus de l'ancien puits des Vieilles Sagnes, le compteur geyser crépite. Des associations de riverains gênés où d'amis de la nature se forment un peu partout sur l'emprise de la division minière. Réunions d'information, pétitions, mobilisations, concerts, etc. La colère monte au fil des découvertes des militants et des fins de non-recevoir qu'adresse la COGEMA à ceux qu'elle considère comme des pas sérieux. En novembre 1976, un attentat à la bombe détruit les compresseurs et le pupitre de commande du puits de Margnac. Une mystérieuse organisation, le COPO, commando d'opposition par l'explosif à l'autodestruction de l'univers, revendique l'action. On n'en entendra plus jamais parler. À la colère de quelques babacoules récemment installés, comme les désignent certains défenseurs de la COGEMA et de l'emploi, s'ajoute bientôt celle d'élus locaux et d'agriculteurs excédés. Parmi les slogans des manifestants, on peut lire « Où la COGEMA passe, le pays trépasse » ou bien encore « Non à la colonisation ». En mai 1979, les habitants occupent la mairie de Razé, siège de la division minière, et dénoncent les dégâts causés par l'extraction de l'uranium à leur pays. Les tensions sont à leur comble et les jalousies exacerbées entre les communes et les familles qui profitent de la mine et des autres. Et voici la période de 1990 à 2001 qui est celle du déclin et de la fermeture. À partir de 1955 et jusqu'à la fin des années 1960, l'industrie minière de l'uranium connaît un véritable âge d'or. La doctrine de l'indépendance énergétique française fait du minerai limousin un symbole, conférant à ses géologues, ses mineurs et ses chimistes de bons salaires et le statut de héros. Pourtant, l'avenir s'assombrit et les alertes se multiplient. En 1969, la demande nationale en uranium et les prix baissent. Estimant que l'outil minier français est surpuissant, le directeur des productions du CEA engage un plan de réduction du personnel. Début 70, les salariés sont inquiets et craignent des licenciements. Le nouvel administrateur général du CEA dément tout licenciement ou fermeture de site. Cependant, les effectifs de la division minière passent de plus de 700 à moins de 600 en 1972. Et donc, le doute s'installe. Paradoxalement, c'est la crise pétrolière de 1973 qui va relancer la filière nucléaire et l'exploitation de l'uranium en Limousin. Le prix du précieux métal est multiplié par 8 entre 73 et 76. Cette augmentation de la demande mondiale provoque une vague de recrutement par le CEA qui sera remplacée par la Compagnie Générale des Matières Nucléaires, la COGEMA, en 1976, sous la direction de Georges Bess. En Haute-Vienne, la division minière de la Crouzille frise à nouveau la barre des 700 employés, auxquels s'ajoutent ceux de la CIMO, centre de traitement de Bessines, de 170 personnes, et de l'établissement de Limoges, de 300 personnes, soit près de 1200 personnes au total. En 1978, la COGEMA célèbre la 10 millième tonne d'uranium extraite du sous-sol français. Mais la crise économique ne fait que commencer. Des mouvements sociaux commencent à ébranler le petit monde de la mine d'habitude si silencieux. En novembre 1975, des mineurs du CEA occupent le puits de Fanet, puis l'ensemble de ceux de la division 15 jours plus tard. Conditions de travail, salaire, crainte d'une privatisation, le dialogue est au point mort. Début 1976, les grévistes bloquent avec leurs engins la Nationale 20 pour appuyer leurs revendications. Ils finissent par décrocher une amélioration substantielle de leur plan de carrière. Au début des années 80, on atteint les pics de production à Limousin et plus de 1000 personnes travaillent encore à l'exploitation du filon, sur les 1700 salariés COGEMA au total dans la région. En 1988, COGEMA fête sa 20 millième tonne d'uranium. Mais dans le même temps, le cours de l'uranium s'effondre et les mines limousines commencent à fermer les unes après les autres, épuisées ou trop peu compétitives. Et en 1991, la COGEMA annonce sa décision de fermer la division minière de la Crouzille dans un délai de 4 ans. Tout s'enchaîne très vite. Le puits de Fanet, celui de Marniac sont abattus en 1993 et 1996. L'usine CIMO est effacée à l'appel mécanique en 1997. La division qui disparaît a extrait près de 13 millions de tonnes de minerais et en a tiré 23 324 tonnes d'uranium en un peu moins de 50 ans. Une seconde page se tourne.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
La COGEMA va alors s'intéresser à la mine de Jouac de la compagnie minière d'Onctrieux. Voici un texte de 1990, extrait de la basse marche de Tous les temps à propos de la compagnie minière d'Onctrieux. Cette compagnie minière est créée au Tonkin en 1916 sous le nom de Société des charbonnages d'Onctrieux. Elle était installée dans la vallée du Trieux. L'exploitation se poursuit au Tonkin jusqu'en 1954. L'activité se déploie ensuite en France à partir de 1957 avec la recherche et l'exploitation de l'uranium limousin et en particulier dans le canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles. En 1958, c'est l'exploitation des gisements de Piégut et des Loges. En 1959, celui de la Côte Moreau. En 1964, celui du Bernardan. Et en 1966, celui des Magrimaux. De 1962 à 1979, la société d'Onctrieux va exploiter la fluorine des mines de la Charbonnière dans la commune de Lussac-les-Églises. C'est en 1973 que la société passe sous le contrôle de Schneider. En 1975, elle signe un contrat avec EDF pour la livraison de la totalité de la production d'uranium. Cela représente environ 10% de l'approvisionnement en combustible nucléaire des centrales françaises. En 1977, c'est la construction d'une usine de traitement, puis en 1978, l'ouverture de la mine à ciel ouvert du Bernardan et en 1979, la construction de l'usine du Bernardan. En décembre 1982, la société des charbonnages d'Onctrieux est achetée par Total CFP et porte désormais le nom de Total Compagnie Minière France. Avec des réserves de 7000 tonnes d'uranium, cette société est en France au deuxième rang des exploitants d'uranium. En 1986, la société employait 272 agents, dont 27 femmes. COGEMA avait racheté la mine de Jouac en 1993. Le filon du Bernardan, qui est exploité depuis 1978, est réputé comme le plus riche de France, donc, avec près de 6 kilos d'uranium par tonne de minerai en profondeur. Cette opération permet d'épuiser les réserves en maintenant une activité minière jusqu'en 2001, afin de gérer dans la durée le plan social amorcé 10 ans plus tôt. Nous reviendrons dans un complément sur l'histoire des mines de Jouac. Sylvain Compère intitule son dernier chapitre 2001-2018 « Actualité et défis ». 2001, l'aube du troisième millénaire marque la fin de l'extraction de l'uranium en Limousin. Pour autant, l'histoire ne s'arrête pas là. Et comme pour mieux aborder cette ère de l'après-mine, COGEMA change de nom et devient Areva, quelques mois après la fermeture de la mine de Jouac. Dernière mine d'uranium en France. Areva mène depuis 1990 et surtout depuis 2001 une campagne de dépollution et de réaménagement de ses anciens sites miniers. La grande majorité des anciens chantiers souterrains, entrées de galeries et puits d'aération, a été remblayée ou rebouchée au béton dès la fin des années 60. Les mines à ciel ouvert, épuisées, sont nivelées, plantées d'arbres et végétalisées, voire transformées en plans d'eau. Areva Mine travaille aujourd'hui sur la valorisation de ces anciens sites miniers en leur donnant une seconde vie. Mais malgré son discours et ses financements, l'ancien exploitant pâtit encore de son image et son musée vitrine, Eureka, est un échec de fréquentation. Des mines, dont Belzane, servent à stocker les déchets issus d'un demi-siècle d'extraction et de traitement de l'uranium en Limousin. Déjà 1,5 million de tonnes ont été versées dans les fosses. Les boues radioactives, sans risque sanitaire selon une expertise demandée en 1998 par le Conseil général du lac de Saint-Pardoux, résultat du rinçage des anciens réseaux miniers situés tout autour et du curage de l'embouchure du ruisseau, s'y trouvent également. Ces stériles ou déchets radioactifs, comme le soulignent les associations de défense de l'environnement, ont donné lieu à de longs débats Une commission locale d'information, puis un groupe d'expertise pluraliste ont permis d'établir un état des lieux communs, des préconisations et des engagements de suivi. Un travail qui a récemment débouché sur un projet de guide pour la gestion des anciennes mines d'uranium tirées de l'expérience régionale et entre les mains du gouvernement. À ce jour, nous sommes alors en 2018, en Haute-Vienne, 141 personnes travaillent pour Areva, essentiellement sur Bessines. L'uranium a laissé des traces. Voici ce qu'écrit René Lacote dans son étude sur l'uranium en Limousin. Certaines communes ont vu se transformer l'habitat, rénovation des maisons anciennes, construction de maisons isolées, de cités, de logements collectifs qui ont considérablement modifié le paysage de cette campagne limousine et la structure des bourgs. La vie économique a également été modifiée par l'accroissement de la circulation, le développement du secteur secondaire et la transformation du commerce local qui a pris un aspect citadin. Il semble également que l'amalgame des nouveaux venus dans la région et des Limousins se soit heureusement réalisé. L'uranium a bouleversé les paysages, mais l'uranium a provoqué bien des peurs, bien des inquiétudes. Nous y reviendrons dans le complément du mois de juin. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle séquence des petites et grandes histoires de la Basse-Marche intitulée « Petite histoire de l'uranium en Basse-Marche et ses marges ». Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Sylvain Compère, de René Lacote et de Colette Marceau. Pour les accompagnements musicaux, j'ai fait appel au groupe Maluzerne, aux compositeurs Éric Satie et René Aubry. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Quicampoix et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.